Bonjour, je suis Marie Bernard. J'ai créé ce festival en 2008, voilà, à la Bastide de Rouérou. On est une bande d'une dizaine de personnes autour de ce festival. Et après, bon, dans le cadre de l'événement lui-même, il y a 70 bénévoles qui sont là pour faire les petites mains, la cuisine, tout ce qui fait que bon, un festival peut être rentable aussi. Voilà.
Et donc, il y a 9 ans, tu as eu l'envie de créer un festival de films documentaires ici. Alors, pourquoi ? Alors, peut-être qu'au départ, ce n'était pas que documentaire.
Non, ça a toujours été que documentaire. Donc, le festival, on le dédie à... Il s'appelle Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, sur les pas de Christophe de Pomphilly. Parce qu'il y a eu cette rencontre avec Christophe de Pomphilly qui s'est suicidé en 2006 et qui avait mis... Donc, tous ces films et les films de son ami aussi, Frédéric Lafont, avec qui il avait créé Interscoop, à notre disposition pour qu'on puisse faire du cinéma débat, puisque moi, j'avais créé avec des petites camarades du conseil d'administration du Collège de la Bastide. On avait créé une association, puisque les gamins ne sortaient pas du collège pendant 4 ans. Il n'y avait rien, pas de cinéma, pas de théâtre, rien, pas de sortie, de voyage. Donc on a créé cette association Ecoci Ecola qui avait pour but de développer la culture sous toutes ses formes et par le cinéma. Et le fait de rencontrer Christophe, on s'est vraiment orienté sur le cinéma documentaire et l'idée c'était aussi d'ouvrir les esprits, d'être un cinéma, un festival citoyen et humaniste, voilà, comme l'était Christophe.
و در صورت کمی با یک قدم پایین ترترش حداقل دشمن به یه متقاعد بسازیم که جنگ رای حل در افغانستان نیست و دشمن به یه متقاعد شوه که بیا سر یه میز مذاکره بشینه دست از جنگ بکشه و پاکستان و باقی کشورهایی هم که در رقبش هستن به این نتیجه برسن که دیگه جنگ رای حل در افغانستان نیست با جنگ نمیتونن هیچ چیزی را حل بکنن.
On a entendu Massoud dans les conférences de presse qui ont été données en France. On a entendu Massoud informer les Occidentaux du péril, de la menace, du danger islamiste, du terrorisme islamiste. Il l'a dit vraiment haut et fort. Et là, en 97, j'avais entendu dire qu'il était encerclé, que c'était la fin de Massoud. Les talibans avaient pris le contrôle de 95% du territoire de l'Afghanistan et on avait l'impression que c'était fini. Quoi. L'histoire de Massoud et du combat de Massoud et des hommes avec Massoud était en train de s'achever. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible. Quoi. Moi, je m'étais résolu à ne plus retourner en Afghanistan après l'échec de Kaboul, après la guerre à Kaboul. Je m'étais dit, c'est pas possible, je peux pas revenir... je veux pas voir ça, quoi. J'avais trop rêvé de ce pays en paix, j'avais trop filmé des hommes qui se battaient pour amener cette paix en Afghanistan, et je me suis dit, je peux pas, c'est fini, quoi. Ça ne sert à rien de continuer à filmer, et puis l'Occident est aveugle et muet devant ce qui passe en Afghanistan. Et en fait, je me suis dit, on peut pas abandonner, je peux pas abandonner maintenant, quoi. Il faut que j'y retourne. Aujourd'hui, dans beaucoup de médias, on parle des événements du 11 septembre 2001 comme les événements qui les plus tragiques donc de ce début du 21e siècle. Mais je pense qu'on fait une erreur, là on est en train de commettre une erreur historique. On devrait absolument ne jamais oublier que les événements tragiques qui marquent ces attaques lancées contre l'Occident ont commencé le 9 septembre. Le 9 septembre, il y a l'élimination de celui qui pourrait être l'allié du monde occidental, c'est-à-dire Massoud, qui est un homme qui a suffisamment de maturité, de force, de charisme, pour être enfin considéré comme l'allié du monde occidental. Et je pense qu'en éliminant Massoud, avant de lancer les attaques sur les États-Unis, ceux qui sont responsables de ce plan, qui ont pensé ce plan, ont extrêmement habilement joué.
Bienvenue, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Préparez-vous à entrer dans un univers dont vous, et vous, et vous aussi, ne sortirez sans doute pas indemne. Une occasion exceptionnelle, comme, je vous l'assure, il ne se représentera plus jamais dans votre vie. Ce festival, comme vous le savez, est dédié à une personne particulière qui s'appelle Christophe de Pomphilly. Il y a des choses que vous savez sur Christophe de Pomphilly et il y a d'autres choses que vous ne savez pas. Voilà. Je sais des choses que vous ne savez pas. Notamment deux choses qui, moi, m'ont particulièrement marqué dans son parcours. Notamment le jour où Christophe a débarqué, je pense que c'était un jeudi, de Russie, il a rapporté du caviar, comme ça, voilà. Moi, j'avais 10 ans, etc. Je vous assure que quand on rapporte du caviar de Russie à 10 ans au petit déjeuner, voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Moi, c'est ce que je retiens de Christophe avant tout, c'est le caviar. La deuxième chose, c'est un passage que j'ai essayé de retrouver, que je voulais vous lire dans son livre qui s'appelle « Le clandestin dans la guerre afghane », un excellent livre que je vous recommande. Notamment, un passage qui, moi, enfant, m'a énormément touché. Donc, il faut savoir que Christophe, à chaque fois, s'habille, à part chez les papous, un peu dans le mode vestimentaire du pays dans lequel il filme. Et notamment, il y a le passage où, pour aller en Afghanistan, il doit passer par un tout petit pays qui s'appelle le Nouristan. Donc, au Nouristan, on a toujours aussi des pantalons très amples et des pacoles, etc. La technique pour faire pipi avec les pantalons très amples, en fait, on ne baisse pas son pantalon, sinon on s'en fout partout sur les ourlets. Donc, on s'accroupit dans l'herbe. Voilà. Donc en fait, Christophe s'accroupit dans l'herbe, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il chope une tique sur une testicule. Voilà. Ça, on ne vous l'a pas dit. Il faut savoir que dans le Nouristan, il y a eu énormément de problèmes, que tous les gens là-bas le faisaient chier, il avait des galères pour les papiers, des galères de thunes, etc. Et qu'en plus, il se chope une tique nouristanine, bien sûr, évidemment. Voilà ce qu'a fait Christophe. Pour pouvoir récupérer cette tique le plus facilement possible, donc dans ses inspections quotidiennes, bien évidemment, il a pris un marqueur fluo et il l'a coloré. Du coup, comme ça, il pouvait directement trouver où aller. Et donc, évidemment, il a pris du DDT qui se trouve encore là-bas pour s'en asperger un peu sur le pubis. Et c'est comme ça qu'il a pu se débarrasser de cette tique. Voilà, Christophe, un vrai héros, le caviar et la tique. C'est mes deux anecdotes. Et c'est un peu à cause de ce mec que j'avais des posters de Massoud dans ma chambre quand j'avais 10 ans et que quand on me demandait qui c'était Zidane, moi je comprenais pas très bien. Plus de 15 ans après la sortie de Massoud l'Afghan, la violence dont parlait Christophe de Pomphilly lorsqu'il s'exprimait à nouveau sur son film suite à l'assassinat de Ahmad Shah Massoud est toujours plus à l'œuvre. Des marchés de Bagdad aux terrasses des cafés parisiens, les morts sont toujours plus nombreux. Plus nombreux aussi sont les ignorants. Ignorants de l'histoire de ce musulman au courage et à la dignité fantastique. De cet espoir d'apporter la paix en Afghanistan. D'apporter, pourrait-on dire aujourd'hui, au vu de la mondialisation des conflits, la paix dans le monde. Du juge Thiel à monsieur le rabbin, des femmes du Tadjikistan à l'ombre blanche qu'il fut pour les papous du Pacifique, des jeunes engagés dans la marine française aux vétérans soviétiques de la guerre d'Afghanistan, Christophe de Pomphilly n'a cessé de laisser la beauté des femmes et des hommes couler librement dans son travail, de laisser le champ de la parole libre à celles et ceux dont il raconte l'histoire, qu'ils accompagnent par ses mots forts, clairs et sensibles pour la porter jusqu'à nous. Christophe de Pomphilly a quitté la vie, il y a 10 ans. Et comme il le disait en introduction de Massoud l'Afghan, l'Afghanistan, ce pays en guerre qu'il a filmé jusqu'au bout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, ou presque.
Au fil du temps, enfin au fil des années, vous déclinez le festival autour d'une thématique?
Alors tous les ans, depuis la deuxième année, on a des thèmes qui donnent un fil rouge pour les sélections des films. Donc on a fait obéissance, désobéissance, la frontière dans tous ses états, place à la rue, les délices du pouvoir, comment va la vie. Quoi d'autre? La famille, un jeu d'enfant. L'an dernier, c'était un temps pour tout, tant mieux, tant pis. Voilà. Et cette année, c'est donc le corps en jeu. Après, ce sont des thématiques assez larges. Les films peuvent passer. Des films que j'ai sélectionnés cette année auraient pu être diffusés l'an dernier. Bon. Mais ça donne quand même un fil et ça nous permet de construire toute la programmation autour.
Comment vous allez chercher les films? On vous les envoie ou vous allez les chercher dans les festivals? Ça se passe comment?
Les trois, en fait. On nous envoie des films, donc on fait un appel à films en début d'année. sur différents sites professionnels. Et après, on va dans des festivals, on voit des films. Et puis aussi, quand je cherche quelque chose, je fais beaucoup de recherches sur Internet et je demande des films aux boîtes de prod ou de distribution, ça dépend. Voilà. Mais il y a les trois, en fait. Et souvent, et ça représente à peu près pour moi et Philippe qui m'accompagne dans cette aventure, le visionnage de 200 films pour faire une sélection d'une trentaine de films.
Et ils sont accompagnés par leur réalisateur quand c'est possible ou c'est, vous n'avez pas les moyens de les accueillir? Je découvre ce festival, c'est pour ça que je pose des questions aussi naïves.
Alors, tous les films, enfin, c'est vraiment l'identité du festival, tous les films sont accompagnés de leur réalisateur ou d'une personne invitée s'il ne peut pas venir. Donc le film est accompagné d'un débat qui est quand même assez conséquent, de 45 minutes à 1 heure. Voilà. Donc on est vraiment dans l'histoire de la rencontre. On parle du fond, de la forme. Bon, on fait une leçon de cinéma avec l'école Les Saves de visuel de Toulouse, donc avec Jean-Louis Dufour qui vient tous les ans. Faire une leçon de cinéma sur un film que j'ai choisi, donc, que je lui impose.
C'était lequel cette année?
C'était La Supplication. C'est un film sur Tchernobyl, l'après Tchernobyl, qui va sortir en salle au mois de novembre. C'est un très beau film au niveau des images et de la construction.
Et donc, les films viennent avec des infirmes. Ils sont présentés, ils sont débattus dans la salle. Du coup, ça veut dire que les spectateurs restent, se posent, prennent leur temps, traînent dans le festival. Ça se passe comme ça?
Oui, ça se passe comme ça. Donc, en festival, les gens qui viennent... on a fait des petites enquêtes pendant plusieurs années. On n'en a pas fait cette année, puisqu'on maintenant on a un peu cerné un peu les choses. On a 50% de gens qui viennent d'Arion, assez proches, 50 km, et après tout le reste vient d'ailleurs, donc entre Toulouse, Montpellier, la Suisse, Nantes, il y a des gens qui louent ici un studio pour une semaine, enfin une chambre d'hôte ou un gîte. Donc ils profitent d'être dans le parc régional du Haut-Languedoc pour faire de la randonnée. Et puis voilà, il y a le festival et ça tombe bien pour eux. Voilà, c'est assez chouette de voir ça, quoi. Moi j'étais un peu surprise quand j'ai su qu'il y avait des gens de Nantes qui venaient ici. Je me suis dit, mais à Nantes il y a tout, c'est une ville culturelle énorme et tout. Et j'ai cherché à les rencontrer et j'ai fini par y arriver et ils m'ont dit mais à Nantes effectivement il y a tout mais on a perdu la convivialité d'un tel festival, donc ils étaient venus avec des amis ici et tous les ans ils reviennent. Voilà, c'est chouette.
Ah oui, ici il y a deux sites de projection de films et puis un endroit où on fait à manger midi et soir.
Oui. Alors, il y a deux sites de projection, même plus, on va dire. Il y a le cinéma de la Bastide Rouérou, il y a un cinéma ici, donc de 140 places. Pour l'occasion, on monte un chapiteau de 200 places. Et après, on a au musée du textile, qui est ouvert gratuitement les après-midi, on passe un film là-bas, en sur demande. Et on a une petite salle qu'on aménage donc dans la maison des associations où on passe des films en bonus, en gratuit, donc des films courts pour les adultes et des films courts aussi pour les enfants.
Alors aujourd'hui c'est dimanche, le festival a commencé depuis combien de temps ?
Il a démarré, alors pour nous il a démarré déjà au début du mois puisqu'on fait pas mal dehors les murs. Voilà, donc on en fait même un à Toulouse, à l'ABC de Toulouse. On a un partenariat avec eux et on en a fait une bonne dizaine cette année. Et puis après, on démarre le festival le jeudi avec tous les scolaires. Donc il y a plein de classes qui débarquent ici. Il y a un travail au long cours qui est initié par Pierre Clos, donc qui est conseiller pédagogique départemental et qui travaille, enfin les enfants. Cette année, il y a 8 classes qui ont travaillé sur l'exposition du photographe de l'an dernier. Et apprennent à travailler sur l'image fixe et sur les textes. Et ils exposent au festival l'année suivante. Donc c'est l'exposition qui a été faite sur le patrimoine, donc à partir de Léa Bosquet, de l'exposition qu'on a accueillie l'an dernier de Léa Bosquet ici. C'est vraiment un travail énorme. C'est vraiment géant ce que fait Pierre et toutes ses équipes, d'enseignants, etc. Bon, voilà, c'est vraiment formidable.
Ça, c'est le jeudi dans la journée.
Ça, c'est jeudi. Après, le vendredi, on accueille le collège de la Bastide Rouérou, donc dans lequel on a initié un atelier artistique cinéma. Donc, les jeunes collégiens font l'ouverture du festival avec leurs films. Donc, ils travaillent pareil sur le thème du festival une année en amont. Voilà, et présente le film donc sur le thème du festival. Et après, donc on accueille aussi des lycéens, les lycéens de Castres, de la Bordebasse. Donc à chaque fois, on essaye d'avoir des débats, des réalisateurs s'ils peuvent venir. Autrement, bon, voilà, cette année, il y a le planning familial qui est intervenu. Voilà, c'était vraiment chouette.
Voilà. Et puis après.
Et après, ça démarre donc le vendredi à 17h, ouverture du festival avec le visionnage du film des collégiens. Inauguration un peu officielle, et puis après, à partir de 19h15, c'est des films en continu. Donc voilà, dans la journée de samedi, on en passe une dizaine. Voilà, donc deux salles en vis-à-vis, il faut choisir, et on n'a pas beaucoup de temps entre les deux pour souffler.
Et là, c'est un peu à chaud, mais pour vous, là, tout de suite, les temps forts de cette édition, qu'est-ce qui vous reste en mémoire toute fin, voilà.
Non, c'est pas chaud. C'est en mémoire là de cette édition, il va rester l'ouverture du festival, parce que cette année c'était les 10 ans de la disparition de Christophe de Pomphilly, donc on lui faisait un hommage particulier avec 3 de ses films. Donc voilà, on a ouvert le festival avec un film L'ombre blanche au pays des papous. Et donc ça a été vraiment un moment de partage assez intéressant et très fort avec Luc Fage qui a vécu avec des papous, enfin qui a fait plusieurs expéditions là-bas. Voilà, et le moment très fort là pour moi en tous les cas, parce que je peux pas être partout, j'ai fait l'ouverture du film, magnifique film de Marie-Ève de Grave, qui a fait un film vraiment superbe. Sur Grisely d'Israël, donc qui est une prostituée révolutionnaire.
Qu'on nous reconnaisse belle, utile, désirable, habile, qu'on reconnaisse que nous faisons bander et éjaculer des milliers d'hommes et que l'argent gagné à la sueur de nos culs et de nos cerveaux est à nous. Se prostituer est un acte révolutionnaire.
Monet m'a dit ça, c'est vraiment, c'est une femme poétesse ou écrivain, je peux en dire, c'était une femme de l'écrit, c'était une artiste authentique.
Il y a tellement de facettes, et il y a les amoureux de la prostitution, les amoureux de sa position militante, les amoureux de son talent artistique. Une femme absolument vivante, et qui en souffre, et qui en jouit, et qui dit toutes les choses que personne n'ose dire et que tout le monde ressent. Il n'y a pas besoin d'une pute pour ressentir tout ce qu'elle raconte.
Justement, si au moins on était des bêtes, mais on est des humains qui sont déshumanisés, mais qui sont même pas des bêtes.
Alors, pour le dire assez court, j'ai un ami éditeur qui s'appelle Yves Pagès, qui s'occupe des éditions verticales, qui m'a, il y a quand même plus d'une dizaine d'années, donné Le Noir est une couleur, qui est le premier roman de Grisely d'Israël, et que j'ai lu, et j'ai trouvé que ce livre était hyper fort, et j'ai proposé à Yves de suivre Grisely Dis pendant qu'elle faisait la promotion de son livre. Et c'était un moment particulier parce qu'elle était en phase terminale du cancer, donc je l'ai filmé avant sa mort. Et j'ai passé quelques jours avec elle, que ce soit à Paris ou bien dans un centre de soins palliatifs à Genève. Et puis, c'était une rencontre forte. Et après sa mort, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Donc, d'autres livres sont sortis d'elle. Et puis, je me suis dit, c'était comme une évidence, c'est-à-dire que Grisely d'Israël, qui est connue pour la prostitution, pour son activité militante, etc., je me suis dit, je vais faire un livre, un portrait d'elle à travers les livres qu'elle a écrits. Voilà. Et mon désir, c'était de rendre hommage à cette femme et à sa façon de voir le monde, à sa façon d'être au monde. Voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Et en tout cas, mon engagement, c'était d'être au plus près de mon désir, quelque part, de cette femme.
Je connaissais Griselidis, hein, donc pas personnellement, mais je connaissais sa vie, son histoire. C'est une poète, une écrivain, une prostituée aussi. Et elle disait, dites à tout le monde que je suis une putain révolutionnaire. Et en fait, j'ai porté ses boucles d'oreilles qu'on m'a prêtées pour l'occasion. Et donc, du coup, ce qui était impressionnant, c'est de voir, on a refusé des gens. Il y avait trop de monde pour ce film. Donc, je n'avais pas imaginé qu'un film sur une prostituée, sur l'histoire d'une vie, elle est connue dans certains milieux, puisse attirer autant de monde. Et ça m'a vraiment bouleversée. Donc, j'ai fait ce festival. C'était un vrai... c'était incongru, quoi, hein, de me lancer dans une histoire pareille. Ça a marché, ça marche. Depuis, j'ai acquis quelques connaissances en 9 ans, on peut le dire. Mais comme je viens d'un autre milieu, j'ai toujours eu envie, enfin, de décloisonner les choses et d'inviter à faire découvrir des gens qui sont venus. Bon, on achète un billet de cinéma, on vient consommer un film, un débat pour l'occasion, puisque c'est comme ça qu'on a imaginé le festival. Mais en fait, j'aime bien offrir aux gens autre chose. Donc, ils sont dans une salle de cinéma pour voir un film, mais d'un seul coup, il y a un comédien qui leur raconte une histoire ou qui leur sert un poème ou une chanson, et ça peut les toucher. Et je pense que voilà, c'est comme ça qu'on peut faire des passerelles aussi. Voilà, bon, on invite toujours aussi des plasticiens à montrer leur travail, c'est l'occasion. Alors bon, on n'est pas riche pour les payer, mais en fait, s'ils veulent bien participer à notre aventure, bon, ils sont les bienvenus. Cette année, on a accueilli, c'est la première année qu'on accueille quelqu'un qui s'investit autant dans le festival, Léa Hernandez, donc qui a travaillé aussi, qui s'est proposé pour faire un atelier avec les enfants des classes primaires. Bon, c'est vraiment super. Je la salue et je remercie vraiment. Je la remercie du fond du cœur. Et son installation est formidable aussi. Donc, j'ai invité les gens. J'ai jamais eu autant de monde à visiter l'installation de Léa et c'est chouette.
Vous, voyez-vous dans le trou de la serrure, à travers vous les tuyaux, couler l'eau, voyez le papier, journal à travers la porte, entendez-vous, goûtez vos entrailles. Cahuète pour l'apéro, bulle à l'intérieur, l'estomac, se remplir, se vider, la corbeille, devant vous, fermé, derrière vous.
Bonjour.
Alors c'est vous l'artiste?
On m'a invité donc à Albastide de Rouérou pour faire une installation sur une scène dans la salle des fêtes qui accueille le pendant du festival avec le coin buvette, d'autres expos. Dans cette expo-là aujourd'hui qui est encore.
Et là, encore, c'est en deux mots, EN, plus loin.
Encore, voilà. Mais j'aime bien le jeu de mots décor, toujours décor.
Enfin, on va faire le tour peut-être?
Alors si tu veux, je t'invite à faire le tour à partir du moment où j'ai délimité, parce qu'une installation c'est toujours un peu, pas complexe, mais c'est pour moi important en tout cas d'essayer de donner, pas un sens de visite, mais en tout cas un début, une entrée, ou une intention. Moi j'aime bien le mot intention. Donc en fait j'ai mis une espèce de rideau rouge, alors ça rappelle aussi la scène, ça me faisait rire, mais surtout il a hauteur d'épaule, à part si vraiment on est un enfant, on est petit, et du coup... Et du coup, en fait, quand on passe le rideau, on se fait chatouiller par les fils. Donc on commence à y rentrer. On est au... Bon, là, j'oblige un peu, en même temps, c'est pas bien méchant, je crois, hein, de se faire caresser par du rideau. Voilà, donc on rentre et là, voilà, on... ça y est, on rentre. Et donc là, on a un escalier. Puis j'ai choisi de mettre un petit mot sur moi et sur ma démarche. Je sais que les gens, ils aiment quand même avoir... Enfin, s'ils le souhaitent, parce que c'est pas une obligation, mais... moi j'aime bien aussi quand je vois les expos à un moment donné de pouvoir avoir un petit mot sur la personne, donc voilà, j'ai mis un peu ce qui moi me semble important. Alors c'est très difficile d'écrire sur soi, c'est pour ça qu'à un moment donné on demande aux autres d'écrire sur soi. Là j'avais envie de me débrouiller toute seule, donc je l'ai fait. J'ai mis encore donc photo, vidéo, son, objet, en jeu, m'interroge, je suis, je photographie, je filme, je propose, je pose, je cadre, je décadre, je partage, je m'installe. Et je, J-E-U, plus que le corps en jeu. Voilà. Et donc, on continue à monter l'escalier. Un passage important, c'est... j'ai mis quelques... Il n'y a pas beaucoup de mots dans mon expo. C'est toujours très compliqué pour moi de mettre des mots. Ça veut dire on explique, ça veut dire on titre, ça veut dire en même temps qu'il n'y a rien, c'est compliqué aussi. Bon, alors je fais comme je le ressens. Mais là, j'ai mis des... 1, 2, 3, 4... Enfin, à chaque chose que je propose, un module, on va appeler... Je propose une petite phrase qui est pour moi une clé, mais avec que des verbes à l'infinitif, parce que je propose d'être en action, en fait. Et donc, par exemple, je dis lorgner le mur de photos, marcher devant les corps. Voilà, c'est toujours en deux parties. Parce que, donc, il y a un mur de photos qui fait 3 mètres et qu'on marche et que c'est des photos de corps nus, voilà. Par exemple, où je dis retourner les oreilles, trouver la paire. Parce que j'ai conçu un jeu de mémoire. Un peu grand, quoi, que je propose sur un tapis, donc il faut trouver des paires d'oreilles, etc. Voilà, je ne vais pas tous les nommer, mais voilà. Donc on rentre à l'expo, et donc là on se trouve justement devant le mur de photos de ces corps nus, en fait. Donc c'est 3 panneaux qui font un bloc et que j'ai choisi de. Donc j'ai fabriqué et j'ai mis ces photos dans des petites boîtes, en fait. C'est comme des cadres un peu plus épais, tout en blanc. Et donc j'ai mis ces photos de corps nus. Alors c'est des photos que j'ai choisi de ne pas recadrer, de ne pas retoucher. Et il n'y a aucune lumière additionnée, quoi. C'est que de la lumière naturelle. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai envie du corps le plus brut possible. Moi, dans ce que je fais en général, l'esthétisation et l'esthétique, la beauté, c'est une question que je me pose souvent et très souvent. Mais après, plus je me rapproche de quelque chose qui est brut et plus je peux en faire d'autres choses, en fait. Plus ça va mener vers autre chose. Et donc là, c'est plein de corps, parce que je ne voulais pas qu'il y ait un corps. Donc le mieux, c'est de le regarder avec un peu de recul, mais ce qui est possible. Et donc, c'est à peu près une dizaine de modèles qui sont prêtés à ce jeu-là avec moi, même si je ne sais pas si c'est un jeu, à cette expérience ou à ce moment-là. Et donc, on les voit, en fait, marcher, me regarder, se regarder, regarder derrière eux. Et voilà, il y a tous ces gens-là. Et donc, c'est du noir et blanc, de la couleur, du portrait, du paysage. Puis j'ai fini cette espèce de mur donc de 3 mètres. Ça fait 1 mètre de large sur 1 mètre de hauteur pardon, sur 3 mètres de longueur par des petits miroirs qui font la taille des photos pour qu'à un moment donné, quand on marche devant le mur, on se retrouve nous aussi dans l'expo, nous aussi sur le mur avec notre corps parce que c'est pas à hauteur du... Normalement, les miroirs, c'est souvent à hauteur des visages. Là, c'est à hauteur de buste, hein, de ventre. Et c'était important pour moi qu'à un moment donné, on ne regarde pas que les autres, mais on se regarde aussi à nous. Voilà. Moi, j'ai envie qu'on... Je suis contente. Moi, j'avais la piscine. Et donc, dans les douches, je mets à poil. Parce que déjà, je suis mieux. Mais même, je fais fi. Je suis contente. Pas qu'on me voit, parce que je suis pas du tout... j'ai pas du tout envie. J'ai pas plus confiance en moi que ça. Mais par contre, que... Je suis sûre que ça fait du bien à d'autres de me voir à poil, j'en suis sûre. Pas parce qu'ils me regardent, mais parce que je le fais, en fait. Et moi, je le fais parce que je suis bien. Après, c'est pas mixte, hein, on est qu'entre filles. Mais voilà, je milite pour ça, quand même. Enfin, je milite, hein. C'est un grand mot, militer. Mais j'ai envie qu'on voit les corps différemment, quoi. Et du coup, qu'on soit différemment. Et je suis sûre que si chacun, on se ressent un peu mieux avec soi, c'est clair qu'on se ressentira mieux avec les autres, quoi. Je suis sûre. Si tous les hommes politiques, un peu véreux, seraient à poil dans un miroir pendant 10 minutes tous les jours, je suis sûre que ça changerait des choses. Je suis sûre. Voilà, donc ensuite, on continue l'expo. Et juste après, donc en fait, pour dire l'élément central de mon exposition, c'est un lit à baldaquin, donc, qui est donc central et auquel j'ai accroché, je me suis servi de point d'accroche. Hein. Je rappelle qu'on est sur une scène, que je ne peux pas faire de trous et tout ça. auquel j'ai suspendu, j'ai fait tenir des fils à linge qui partent aux quatre coins du lit à baldaquin en fait, et qui me permettent à définir des espaces et accrocher des choses sur le fil à linge. Et donc juste à côté du monde photo là, face à la salle, j'ai installé des habits en fait que j'ai suspendus par des pinces à linge. Plus je les ai un peu encartonnés pour qu'ils restent avec une forme. Parce que, en fait, c'est très con, très naïf et très ludique, mais ça me faisait beaucoup rire que des gens qui se baladent dans l'expo, à un moment donné, parce que les gens, des fois, ils ne voient pas un éléphant dans un magasin, donc ils avancent pour regarder plutôt les gens que mon expo, par exemple, mais en fait, ils vont se retrouver la tête dans une robe de mariée, ou dans une. Enfin, une robe de mariée, elle est plus stylisée que ça, hein, ou dans une salopette, voilà. Et les gens de l'autre côté vont voir la tête de cette personne qui est en train de le regarder et qui n'est pas en train de regarder l'expo, peut-être. En train, voilà, dans la peau de quelqu'un d'autre, quoi. Donc ça me faisait beaucoup rire. Après, ça a beaucoup plu aux enfants qui, eux, ont fait des photos en rentrant dans la peau, et c'était chouette.
Oui, ça fait un peu foire les photos de fêtes foraines.
Voilà, aussi. Voilà. Mais bon, moi, j'aime, après, ces côtés aussi ludiques et légers. Beaucoup des éléments qui sont dans cette expo, c'est de la récup. Et puis en plus, pour moi, ça fait des liens et ça me parle encore plus et ça me fait encore plus assumer les choses, quoi. Donc là, par exemple, il y a la robe de mariée de ma mère d'il y a 40 ans, qui ne ressemble pas tellement à une robe de mariée, hein, mais qui fait un petit lien aussi avec ce lit, parce que ce lit à baldaquin avec une toile en haut, ben, moi, ça me fait penser à quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Frida Kahlo, et avec de la dentelle un peu, puisque côté Mexique, et mon arrière-grand-père était mexicain. Et puis même, cette femme, ça me plaît, quoi, elle me plaît. Et donc ça me faisait rire de mettre là. Quand ma mère m'a prêté sa robe de mariée, je l'ai mis. Et après, sans y réfléchir, j'ai pensé à accrocher une espèce de salopette de chantier à moi, ma salopette avec laquelle j'ai fait les murs, les boîtes. Et quand je suis en chantier, je prends cette salopette. Mais quand je l'ai encartonnée, parce que c'est une grande salopette pour être à l'aise, à côté de cette robe, j'ai dit mais merde, ça fait Frida et Diego Rivera, quoi. Mais ça, c'était pas du tout voulu, par exemple. Mais j'adore quand les liens se font tout seuls aussi comme ça, même si. J'en cherche pas tout le temps, hein, mais quand ils se font tout seuls, je trouve ça rigolo, quoi. Puis moi, ça me fait plein d'axes après. Enfin, du coup, je peux en parler longtemps. Voilà.
Oui, n'oublie pas quand même qu'il y a une robe de petite fille à côté.
Oui, il y a aussi une robe de petite fille à côté.
À côté de cette salopette plutôt d'homme et cette robe.
Oui,
de
oui,
femme.
Oui. Et ben après, il y a une robe de petite fille. Hein. Alors, j'ai pas trop envie de. C'est pas que j'ai pas envie d'en parler parce que. Franchement, je suis pas nulle pour justifier ce que j'ai envie. Mais des fois, j'ai pas envie de justifier. J'ai envie plutôt qu'on s'en donne l'essence qu'on en veut. Mais c'est une robe de fille qui est blanche. J'ai cherché une robe de communion, en vrai, de communiante. Et donc voilà. Et donc c'est une petite robe blanche, et voilà. Et qui est donc plus basse et à une hauteur différente, hein, à côté de la robe de mariée. Et voilà. Et donc du coup là, si on se retourne, donc on a la salle à notre gauche. On vient de rentrer dans les escaliers à notre droite. Et puis on a le mur de photos derrière nous. Et donc devant, donc le lit à baldaquin. On continue sur les fils. Puis devant nous, une grande moquette bleue qu'on m'a généreusement prêtée, qui a sorti au rideau bleu qu'il y avait in situ, qu'il y avait ici. Hein, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi un peu. Il n'y a pas trop de couleurs. Il y a du blanc, du noir et du bleu. Et donc sur cette moquette, sans retourner, normalement, bon là il y a des gens qui ont joué, mais sinon on voit des carrés blancs, un peu grands, quoi, genre 40 cm, voilà les carrés. Et en fait c'est tout simplement un memory comme les enfants jouent avec à chercher la paire de, enfin les deux lunettes ou les deux escargots, voilà. Sauf que moi j'ai fait un memory avec des oreilles, des gros plans d'oreilles, parce que je trouve ça très drôle, hein. Parce que les oreilles en gros plan qu'on en voit beaucoup, ça ressemble à tout sauf à des oreilles. Ça peut être dégoûtant, ça peut être vivant, on dirait des fœtus. C'est vraiment très bizarre. Et puis c'était la continuité de corps. Et puis voilà, donc dans ces oreilles, il y a des gens qui comptent ou des gens qui ont donné, marqué quelque chose. Donc il y a ma famille, etc. Et donc on est voilà, dans l'idée, c'est un memory. Donc on se prête au jeu ou pas, ou on peut les regarder comme ça d'ailleurs. Peut-être plus tard, je l'exposerai différemment et pas en memory, mais voilà, l'idée, c'est de retourner et de trouver la paire. Mais elle n'est pas exactement pareille, puisqu'on n'a pas exactement les mêmes oreilles.
Con el pico.
Donc ensuite, on avance un petit peu, puis là, on arrive sur une petite installation avec, avec des jambes de mannequin que j'ai récupérées et fixées sur un socle. Et puis une espèce de cabine en haut, donc c'est un essai parce que j'ai pas tellement les moyens de faire fabriquer des choses, donc j'essaye petit à petit si j'ai des rentrées de faire fabriquer des choses. Donc là on l'a fabriqué avec mon père et chouette, il s'est vachement investi pour m'aider parce que j'ai beaucoup d'idées mais je suis pas une super bricoleuse quoi. Donc il m'a aidé, on a fabriqué un caisson et je voulais en gros que à l'extérieur, on n'entend presque rien et on se rapproche. Là, on a mis une espèce de récupération de casque d'écoute, quoi. Et donc, quand on approche l'oreille, on entend très très bien le ce qui se passe, quoi.
On va écouter.
On va écouter.
On entend la mer.
Ouais, alors en fait, c'est un montage en trois parties. Donc là, on est tombé. Donc c'est quelque chose qui tourne en boucle, ça dure à peu près 3 minutes. Alors j'ai mis un tout petit titre derrière pour quand même donner le titre et donner le minutage parce qu'il y a des gens qui aiment bien aussi écouter jusqu'au bout, savoir combien de temps ça dure. Donc voilà, donc j'ai écrit, voilà, donc ça s'appelle À l'écoute de vos besoins, exploration viscérale souffle, 3 minutes 15. Donc c'est en trois parties. Donc la première partie, c'est. C'est un texte que j'ai écrit, amusant, un peu drôle, et que j'ai fait, que j'ai enregistré avec une amie, voilà, avec une diction un peu particulière qui fait appel au corps. À l'intérieur, il y a des, voilà, c'est assez simple, ça dure pas longtemps. Et ensuite, c'est un enregistrement que j'avais fait il y a pas mal d'années sur un travail que j'avais fait que de son en fait. Et donc c'est quelqu'un qui chante du flamenco, donc que j'ai enregistré. Et voilà, que j'ai mis parce que ben, je suis vraiment espagnole et je suis espagnole, j'ai dit origine mexicaine, mais je suis autant espagnole que française. Et moi, ça me touche, cette musique. Et puis, elle a toute sa place ici parce que pour moi, c'est vraiment le type, enfin, c'est typique la musique qui vient des tripes, quoi, et qui tord le ventre et qui, quand elle chante, bon, après, comme d'autres chants, hein, traditionnels, mais on va dire que celui-là, il est plus proche de moi, donc j'ai décidé de le mettre. Et on finit après ça, après cette exploration, et j'ai appelé ça viscéral, la partie flamenco. Et après, on arrive sur la nature, hein, enfin un peu, parce qu'on n'en a pas tellement là dans l'expo. Et donc là, c'est des enregistrements que j'ai fait aussi à l'époque où je tournais un film. Et donc, j'ai récupéré des enregistrements que m'avaient fait les ingé-sons de ruisseaux, de vent, de souffle. Et c'était hyper important aussi pour moi, le souffle, parce que ça, c'est pas quelque chose que je peux faire ressentir. Et donc là, j'ai envie qu'on l'entende. Même si c'est pas un souffle humain, mais ça, pour moi, c'était important dans l'espace aussi. Donc voilà.
On va retourner un peu pour voir si ça change.
Donc on continue, donc là on se retrouve devant le lit. Il y a quelque chose qui est un peu particulier, c'est qu'on m'a proposé, quand je suis venue ici, de faire un atelier avec les enfants. Et c'est la première fois que je faisais un atelier avec les enfants sur l'art.
Et non, je vois, alors je rigole tout de suite parce que je vois qu'il y a une chaise et que... Enfin, voilà. Non, on ne peut pas coller son chewing-gum derrière la chaise. Parce qu'on a commencé cette interview, toutes les deux, on avait un chewing-gum dans la bouche et ça fait depuis le début qu'on se le tient dans les mains. Ben voilà, ok.
Super. Mais ça, je serai lu, quoi. Je vous préviens, voilà. Et puis pour moi, c'est important, on le fait ensemble, voilà. Et puis j'aurais dit, puis après, vous avez vu mon expo, vous avez vu ce que je fais. Bon, je n'ai pas non plus, là, vous retournez la chaise en mode, vous allez écrire. Non, je vous mets la chaise à l'endroit. Donc c'est à vous de trouver la position avec le corps pour aller sous la chaise. Donc j'aurais fait la démo où je me suis mis sur le dos et j'aurais dit ça vous fait penser à quelque chose. Oui, un mécanicien. Oui, voilà, j'ai dit voilà, donc éprouver aussi. Donc voilà, ils se sont donnés à cœur joint et avec l'autorisation des professeurs et du droit à l'image, j'ai fait quelques photos Polaroid me disant que d'abord j'avais envie qu'ils se voient y faire après et en plus me disant aussi qu'à l'exposition quand je mettrai les chaises, il y aura une petite explication aussi par ces photos en fait. Voilà, donc on voit sur les 4 chaises autour du lit que j'ai accrochées avec des crochets justement, des crochets de boucher. Et donc on est à hauteur, nous adultes en tout cas, on est à hauteur pour bien lire et regarder. Et donc on voit à chaque chaise
aussi une photo Polaroid. Donc on peut lire des choses. Alors il y a de tout, hein. Et puis il y a beaucoup de chewing-gum parce que, enfin, t'imagines qu'ils ont adoré les chewing-gums. Donc on voit beaucoup de prénoms, Mort de rire, Lola t'es moche, voilà. Arthur, E plus A égale amour, ça j'adore. Qu'est-ce qu'on voit du chewing-gum? Après il y a eu 90 enfants qui sont passés, quoi, divisés en 4. Hein. Bon, du coup les pauvres, il y en a qui n'avaient plus de place, hein, c'est compliqué. Donc Tony, Bastien, les CM, prénoms. Il faut arriver à lire, quoi. Mais bon, ça fait chaise décorée. Hein.
Et ça ressemble bien à n'importe quelle chaise de n'importe quelle année.
Je pense. Après, elle est chargée, hein, mais sinon, je pense. Je pense que ça marche vraiment, quoi.
Et elles sont donc au-dessus de ce lit à baldaquin.
À ce lit à baldaquin. Déjà, il y a un lit. Alors, les gens, ils osent pas. C'est compliqué. Mais vu comment est le lit, je pense qu'il y en a qui ont osé y aller. Donc, on peut s'asseoir, s'allonger, faire ce qu'on veut. Et donc, il y a une petite télécommande qu'on peut mettre, qu'on peut viser la lumière et changer la couleur ou l'intensité, en fait. Et ça me faisait rire parce que dans le corps aussi, des fois, on paye. Il y a des gens qui payent pour aller faire de la luminothérapie. Et ce que je peux concevoir... Hein, Parce que déjà la lumière, ça fait vraiment un effet, quoi. C'est hyper important. Et moi, je parle de photos, de vidéos. Faut que je parle de lumière. L'occasion était trop belle pour pas m'amuser. Même si encore une fois, c'est vraiment geek, quoi, d'avoir une lumière qui change de couleur. Mais ça marche, quoi. Enfin, en tout cas, les enfants, ils ont tout de suite compris où je voulais les amener quand j'aurais dit vous allez vous mettre sur le lit. Là, en plus, je vous sens bien excité. Vous allez sur le lit, puis changez la couleur. Et est-ce que vous ressentez des choses qui changent en vous? Est-ce qu'il y en a qui vous excitent et tout? Enfin, ça leur a parlé de suite, quoi. Et donc, pour moi, c'était gagné, quoi. Même si là, c'était des enfants, mais des adultes, ça les amuse aussi de changer les couleurs, de se mettre dans le rouge ou dans d'autres, hein, de toute façon. Puis ça donne une atmosphère un peu différente, mis à part les ressentis, mais aussi, ça donne une petite couleur, quoi. Même si je ne maîtrise pas la lumière de la salle des fêtes, hein, mais parce que j'ai décidé d'éteindre, moi, ces lumières néons de salle des fêtes et de rajouter des touches de lumière, voilà. Donc voilà, donc ça c'était le lit, puis après on arrive sur la dernière partie de vidéo aussi de mon install. Donc il y a trois, on va dire, modules vidéo, enfin deux. Un qui est sur une fabrication encore de mon papa, qui me suit, c'est chouette. Et donc je lui ai commandé, et puis ensemble on a fait des plans d'une structure en fait, avec un tube et une roue de vélo, qui abrite un petit cadre, et dans ce cadre, il y a un iPad, et dans cet iPad, il y a une vidéo que j'ai faite. Et donc, la roue tourne, il y a écrit « Tourner la roue », encore l'impératif, verbe d'action. Et donc, on voit en boucle défiler une vidéo de 3 minutes, qui est une vidéo donc, que j'ai faite, que j'ai filmée et montée, de gens qui font de la danse verticale, sur un grand mur à Toulouse, vitré en plus. Et donc, la danse verticale, c'est on est accroché à une corde, et puis on danse sur les murs. Et c'est assez fou à voir, je pense à faire aussi, même si j'ai pas encore essayé. Je me suis amusé au montage de changer le sens. C'est-à-dire, le haut devient le bas, le côté droit devient le côté gauche, ou le haut devient le côté droit, etc. Pas beaucoup, mais un petit peu, pour reperdre, puisque déjà, quand on voit l'image, on est un peu perdu de sens de lecture, en fait. Eux-mêmes, ils ont la tête en bas, et eux-mêmes, des fois, est-ce qu'ils le savent, et puis ils se retournent. Donc moi, j'ai joué ça. Et en plus, parce que j'ai pas envie j'avais envie d'aller un peu plus loin, je l'ai mis dans une roue. Donc du coup, avec la roue, on peut se refaire le film, hein, ou l'idée, où on voit juste un corps en train de voler ou de faire des choses, mais on n'a plus trop envie de savoir même le haut du bas et le ciel de la terre. Il y a des indices avec les cordes ou les cheveux qui pendent, mais on peut se perdre des fois. Voilà, donc cette roue qui tourne, avec un film qui tourne en boucle, avec des gens qui tournent autour d'eux sur un fil. Je finis sur l'espace vidéo peut-être. Donc ensuite j'ai deux télés. En tout il y a 6 films. Donc 5 sur une télé, c'est des formats courts, hein, très courts, de 2 à 3 minutes. Et sur une autre télé, un film tout seul qui dure 4 minutes et quelques. Donc dans ces vidéos, je suis allée plus loin en érotisant. Par exemple, j'ai choisi librement de mettre en scène quelque chose où j'érotise le corps. Ma vision d'un quelque chose érotique. Puis quelque chose de quand même absurde et décalé aussi. Puis d'émotionnel aussi. J'ai fait une vidéo où les gens sont un peu surpris parce que c'est que des vidéos muettes que je propose et pas parce que le son était compliqué, hein, parce que c'est comme ça que je les ai conçues. Et il y en a une où on me voit parler. je sais pas si les gens me reconnaissent ou pas, ça dépend s'ils me connaissent, mais en tout cas c'est moi. Et puis je parle face à un écran. Et donc, il y a certaines personnes qui ont dit, mais il n'y a pas de son. Ça les intrigue beaucoup qu'il y ait quelqu'un qui parle. Alors oui, c'est vrai, et je ne l'ai pas fait pour énerver. Hein. C'est juste que c'est une vidéo qui m'est personnelle, en vrai, où je livre quelque chose qui me touche. En ayant demandé à des gens qui me connaissent ou pas, s'ils regardent attentivement la vidéo, ils voient qu'il se passe quelque chose quand je parle. Et donc, j'ai trouvé ça chouette. Et puis après, c'est moi, je me fous un peu à poil aussi, à mon tour, parce que pour moi, c'est pas une vidéo, c'est une vidéo qui est importante. Donc je me fous aussi un peu à poil. Et donc du coup, pour moi, on voit sur l'expression, sur mes yeux qui vont briller, ou je renifle parce que je suis malade ou parce que je suis émue. Enfin, on se fait ce qu'on en veut de ce qu'on voit, mais c'est il y a un sens vraiment pour moi de mettre cette vidéo-là, même si je me suis posé la question. Et donc sur l'autre télé, on voit une vidéo toute seule. Pourquoi ? Parce que là, c'était une expérience qui était un peu plus pas réfléchie, mais en tout cas, c'était une proposition encore avec des garçons que je suis allée voir. J'ai dit bon, je suis en train de préparer des choses, des vidéos, et j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui se déshabillent. Tout pendant qu'on les filme, enfin c'est pas moi vraiment qui vais filmer, c'est sûrement toi qui vas te filmer. Est-ce que dans l'idée tu seras d'accord? Si oui, ben on prend rendez-vous. Et pareil, des gens que je connaissais et d'autres pas beaucoup, quoi, vraiment. Et donc je suis arrivée chez eux quand j'avais pris rendez-vous, donc je leur ai donné la caméra, j'aurais dit où était le bouton, j'aurais donné un tapis et un petit mot comme ça. Et donc le petit mot, je l'ai mis dans l'expo là. Et donc en gros, je dis donc petit modèle donné, petit guide donné. Et donc en gros, je leur dis. Donc l'idée, c'est que vous filmez tout en vous déshabillant. Vous ne devez jamais, jamais poser la caméra. Vous devez la braquer le plus possible sur vous et plus possible sur votre peau. Vous devez vous déshabiller intégralement. Le son ne sera pas pris en compte. L'exercice est à faire tout seul. Vous ne devez jamais sortir du tapis rouge qui sera au-dessous de vous. Et donc, ils ont fait ça. Et ensuite, j'ai pris toutes ces images et je les montais dans un sens que j'ai choisi. Et là, j'ai choisi plus ou moins dans un sens de déshabillage, c'est-à-dire je me déshabille d'abord par le haut puis par le bas, voilà, c'est comme un striptease, mais ça ressemble pas du tout à un striptease du coup, d'homme, hein, parce que je voulais aussi des hommes, mais c'était, je pense, je suis une femme, la question de femme ça m'intéresse aussi beaucoup. Il y a des hommes dans les murs de photos nues, mais là que je demande à des hommes de se regarder à travers le prisme d'une caméra, enfin de se filmer, qui se mettent en scène ou pas, il y en a qui se sont un peu mis en scène, d'autres pas. Pour moi, c'était, je suis contente que ce soit des garçons, j'aurais pas fait des filles, je pense. J'aurais fait d'autres choses, mais. Donc voilà, donc. J'étais super contente et voilà. On va arriver à la fin, le dernier module que j'ai créé spécialement pour ici. Voilà, parce que j'ai voulu aussi créer des séparations tout en laissant vivre l'espace qui est l'espace de la salle des fêtes. Il y a une autre expo photo, donc ça faisait aussi séparation, sans complètement enfermer. Donc j'ai mis une toile de parachute bleue, oui, bleue comme le rideau, comme le tapis, ouais, une petite cohérence de couleurs. Et donc là, il y a une espèce d'escabeau qui nous a vraiment servi, que j'ai choisi de prendre au dernier moment. Hein. Et puis pendant que j'ai eu... Je suis venue il y a quelques jours m'installer, j'ai mis quand même un jour et demi, un truc comme ça. Puis après, pendant un jour et demi, j'ai fait des avions en papier. Parce que je me suis dit que j'avais envie de les coller sur l'escabeau et que j'avais envie qu'on les jette dans ce parachute bleu qu'on ne ment peut faire penser à la mer ou à ce qu'on voudra d'ailleurs, ou au ciel. L'idée, c'est aussi de s'exprimer après avoir vu l'expo ou pas du tout. Enfin, en tout cas, on l'a vu. Donc après, est-ce qu'on a été influencé par ce que j'ai fait ou pas, je sais pas. En tout cas, j'ai donc écrit sur l'escabeau « Écrivez ». Faites envoler vos mots, M-A-U-X, mots. Et donc, il y a un petit feutre qui est à disposition, des avions, donc on n'a qu'à décrocher un avion, on écrit son mot, M-A-U-X, bon, j'ai un peu lu des mots, il y a des fois, c'est pas des mots, c'est d'autres choses, mais chouette, enfin, tout chouette. Et donc, on se met sur l'escabeau, c'est très concept, je me mets sur l'escabeau, on va m'entendre, voilà. Je me mets sur l'escabeau, et là, en fait, je jette mon avion. Voilà, et ça expie un peu, parce que je suis sûre que ça marche un petit peu quand même.
Moi, j'ai juste une remarque tout de suite là qui me vient, c'est que je pour moi ce lieu c'est vraiment un lieu de rencontre, bien entendu, avec une partie des morceaux de ton intimité, de ton histoire, et puis la nôtre ou celle de personnes qui t'a demandé, et que vraiment c'est un échange, quoi, c'est un lieu de, c'est une conversation mais sans le son, quoi, finalement. enfin, une conversation imaginaire.
Oui, oui. Ah oui, pour moi, oui, t'as raison. Oui, oui, oui. Parce que moi, je parle. Hein. Mais après, enfin, je parle. Hein. Oui, je leur parle. Hein. Oui, oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que selon les sensibilités de chacun, certains vont le ressortir, d'autres pas du tout. Et après aussi, j'ai vu un peu, j'ai regardé un peu des gens. Des fois, j'étais mal à l'aise hein, de voir les gens qui étaient dans un expo. J'étais mal à l'aise de voir leur réaction en direct. Et d'autres fois, je l'assume plus. Ça dépend aussi de mon état, parce que ben, je suis humaine et que j'ai des ressentis, tout ça. Et tout ça pour dire que je pense qu'il y a des gens qui vont passer très, très vite, hein, mais que c'est pas parce qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. C'est juste, c'est comme moi, quand je veux les regarder ou que je veux pas les regarder. C'est la même chose. Et je pense que si on a envie de communiquer avec moi, entre guillemets, là, je fais pas la gourou sectaire, pas du tout, c'est pas ça du tout. Mais je pense qu'on peut, comme tu dis. Même si moi, je l'aurais jamais formulé comme ça. Parce que j'ai fait l'expo et que je le vois de notre point de vue, mais voilà. Mais c'est vrai, c'est une conversation sans son. Mais là, on en met plein de son.
Et là, il y a des enfants qui sont en train de faire des bébouris.
Ouais, je suis contente, on va aller les voir. Ouais. Pour l'anecdote aussi, moi, ça me faisait rire parce qu'on n'a pas les mêmes oreilles. Et il y a un petit garçon qui m'a dit « Mais non, c'est pas les mêmes oreilles. » Et je dis « Ben si, mais on n'a pas du tout les mêmes oreilles. » Et quand je le regardais après, c'est un petit garçon qui avait une déformation à une de ses oreilles. Mais vraiment, quoi. Et là, je me suis à une seconde, mais j'ai senti qu'il sentait moins seul. Je sais pas comment expliquer. Et alors qu'il le sait pourtant qu'on n'a pas les mêmes oreilles. Mais là, il a revu, en fait, que... Je sais pas, en fait, ça... Moi, ça m'a fait un truc, en tout cas, sur le moment de ce petit garçon, quoi. Et voilà, en tout cas, ils ont bien joué. Et c'est chouette. C'est chouette de voir des gosses s'amuser dans une exposition d'art contemporain.
Merci beaucoup, Léa.
Ça va ? Oui ! Ça, c'est les oreilles de la maman Léa.
Voilà. Non !
Donc j'aime bien mélanger les arts et les comédiens depuis le deuxième festival font des impromptus, donc ils regardent les films, ils ont une carte blanche et ils font ce qu'ils veulent sur le festival. Je leur fais entièrement confiance, donc cette année c'est un peu osé parce que nous avons Maëlle qui se trimballe en petite tenue.
Et alors comme on n'a pas l'image à la radio, c'est quoi la petite tenue de Maëlle?
Alors porte-jartel, guêpière et porte-jartel, petite culotte, soft la petite culotte.
Et son compère, une sorte de combinaison
Alors lui, il fait un peu, je sais pas, homme araignée, voilà une combinaison rouge qui le recouvre de la tête aux pieds.
L'an prochain, le festival aura 10 ans. Vous réfléchissez déjà à des événements autour de ce 10e anniversaire. À 10 ans, ça y est, on commence à, à se poser un peu?
Non, on ne se pose pas vraiment. Hein. Malheureusement pas. J'aimerais bien pérenniser mon poste, mais ce n'est pas le cas. Et bon, voilà, c'est le problème de beaucoup de structures et de beaucoup de projets, c'est toujours la guerre de l'argent. Donc on est reconnu par les institutionnels, mais bon, bien sûr, on n'est pas... Voilà, c'est toujours un petit peu le cheval de bataille de trouver des sous. Et bon, donc c'est un peu l'édition, la réussite du festival qui fait qu'on va pouvoir continuer. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Si, c'est grave. Il faudrait employer des gens, mais c'est compliqué. Ça répond à un besoin. Donc ça va continuer, j'espère qu'on trouvera les choses. Et donc pour la 10e édition, puisque c'était la question, oui, on y pense depuis l'an dernier, mais le thème est venu tout de suite. Enfin, c'est classé depuis un an. Donc les 10 ans, ça sera les films auxquels vous avez échappé, les films et les rencontres auxquelles vous avez échappé.
Voilà. Ah oui, d'accord, c'est un anti-best-of, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, tous les ans, quand on visionne 200 films, forcément, on laisse vraiment des films très beaux qui nous ont touchés au bord du chemin. Donc, pourquoi on ne les met pas, puisqu'ils nous ont touchés, mais parce qu'il n'y a pas assez la place. Il faudrait faire un festival sur une semaine et qu'on ne serait pas en possibilité de le faire. Donc, il y a des films comme ça tous les ans qu'on dit on va pouvoir les mettre, et puis tant qu'ils ne viennent pas, leur place n'arrive jamais. C'est dommage parce qu'ils sont très beaux, et donc, j'ai vraiment envie de les faire découvrir. Alors, en tous les cas, c'est des films que j'ai envie de partager parce qu'ils me poursuivent. Dur, peut-être, esthétique, ou quelle que soit la forme. Il y a un film, par exemple, je ne sais pas, ça fait 4 ans ou 5, qui s'appelle un film de David André, qui s'appelle La vie amoureuse des prêtres. Voilà, c'est un sujet un peu tabou. On en a qui était d'actualité ces derniers temps, mais bon, à la fois, c'est un film apparemment que le réalisateur a eu beaucoup de mal à faire pour trouver des témoignages, etc. Et les gens qui témoignent m'ont vraiment touchée, parce que c'est vraiment, c'est très dur, et à la fois, c'est courageux de témoigner de ces choses-là.
Voilà. Merci.
Merci à vous.